Et les midis continuent de cavaler. Restez en selle tout à l'heure. À partir de 13h, je recevrai l'autrice Louisa Yousfi. Mais tout de suite, c'est l'heure du Point Culture de Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. L'influenceur américain Aisho Speed, qui cumule plus de 50 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, a récemment proposé à son immense communauté un tour d'Afrique, du Kenya au Maroc, en passant par le Botswana. Cette tournée a provoqué un torrent de réactions, notamment de la part des diasporas, découvrant avec étonnement le côté contemporain du continent africain, loin des images éculées de chasseresse ou de famille. Sumboy Vrenon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le rédacteur en chef d'Histoire Crépus, c'est un média en ligne dans lequel vous décryptez l'histoire coloniale. Le passage de l'influenceur américain Aisho Speed dans plusieurs pays africains a généré des millions de vues sur YouTube, beaucoup de commentaires, notamment d'afro-descendants américains qui semblaient en fait découvrir l'Afrique grâce à ces petites vidéos qu'il a publiées pendant un mois. Selon vous, est-ce que ce type de contenu permet réellement de valoriser le continent africain ou est-ce qu'il contribue à recycler une image exotique ?
Ben merci beaucoup pour votre invitation. Moi, j'ai suivi avec beaucoup d'attention l'arrivée d'Aisho Speed en Afrique. C'était quelque chose que beaucoup de gens attendaient. Ce qu'il faut se dire, c'est que Aisho Speed, c'est une méga star à l'échelle mondiale. Il a à peine 21 ans et pourtant, il cumule déjà des millions d'abonnés. C'est quelque chose qui a jamais été, je pense, dans l'histoire même du streaming jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, la manière dont il est arrivé en Afrique est très différente de ce que font la majorité des influenceurs.
C'est-à-dire
que la plupart des gens arrivent plutôt pour se mettre en scène leur soutien qu'ils vont donner à l'Afrique. Ils vont aller construire des puits, ils vont aller voir des enfants misérables, etc., etc. Il y a tout un trope de ce qu'on appelle le white savior, c'est-à-dire la personne occidentale en réalité qui arrive pour sauver les petits Africains qui sont dans la misère. Aisho Speed, dans sa manière d'arriver, il est différent, c'est-à-dire qu'il va vraiment aller montrer la modernité de l'Afrique. Et donc, il va aller dans des grandes villes, il va rencontrer des gens, il va faire des danses traditionnelles, il va faire tout ce qu'on n'a pas l'habitude de montrer sur l'Afrique. Et ça a surpris beaucoup les Afro-Américains, parce qu'effectivement, quand on est quelqu'un qui vit dans une diaspora, on a souvent aussi intégré beaucoup de préjugés racistes, qui sont des préjugés qui ont été véhiculés par des films, par des chansons, par des documentaires qui nous habituent à voir une Afrique misérable. Et là, en fait, il va montrer une autre facette de l'Afrique. Et ça raconte beaucoup l'écart qu'il y a entre les diasporas, qu'elles soient aux États-Unis ou en Europe, et ce qui se passe réellement sur le continent.
Ce qui était étonnant, c'est de constater que, par exemple, des villes comme Accra ou Lagos ont besoin, finalement, d'un YouTuber américain pour devenir viral sur les réseaux sociaux. Il y a évidemment des créateurs de contenu africains. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas la même empreinte numérique au niveau mondial ?
Exactement. En fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que Aisho Speed, c'est l'une des plus grandes stars de l'histoire même d'Internet. À 21 ans, avoir autant de millions d'abonnés sur YouTube, mais avant c'était sur Twitch, sur TikTok, sur Instagram, c'est juste colossal. Je pense que les gens même qui ne connaissent pas vraiment les réseaux sociaux ont du mal à mesurer à quel point c'est important. Donc là, c'est comme si vous aviez à l'époque, je sais pas, Michael Jackson qui arrive dans une ville. Évidemment, le monde entier regarde ce qui se passe. Donc il est beaucoup plus puissant que tous les influenceurs actuels en Afrique. Et c'est beaucoup pour ça que son arrivée, sa venue fait du bruit. C'est au-delà du fait que c'est un Afro-Américain, c'est surtout le fait que c'est le plus gros streamer du moment.
D'ailleurs, les chefs d'État, enfin toutes les institutions dans les pays africains qu'il a parcourus étaient là pour l'accueillir. Il y avait vraiment des accueils très officiels.
Exactement. Et là encore, ça nous remet dans un moment un peu étrange pour les diasporiques, c'est-à-dire que les Afro-Américains ont souvent grandi avec l'idée que l'Afrique n'était pas là pour les accueillir, que les personnes du continent africain s'en foutaient en fait d'eux. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hostilité parfois qui peut exister, à la fois de la part d'Afro-Américains des diasporas contre les Africains, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a du racisme intériorisé, qu'il va y avoir des traitements négatifs que vont subir des personnes africaines quand elles émigrent aux États-Unis ou même dans les Antilles ou en France. Et à l'inverse, quand les afro-diasporiques arrivent en Afrique, beaucoup de gens vont mal les traiter ou bien les considérer comme des Européens, ce que nous sommes en réalité, les diasporiques. Et donc là, le fait de voir des présidents qui se mobilisent, ça a quand même retissé une sorte de confiance, mais je pense surtout pour les diasporiques. Parce que au niveau des personnes en Afrique, en fait, ce qu'ils voient arriver, c'est surtout un Américain. Plus qu'une personne noire, plus que... Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui.
C'est du point de vue des diasporiques. On se dit, on est avec les personnes noires, on retourne en Afrique, dans le pays d'origine de nos parents ou de nos arrière-arrière-arrière-grands-parents. Mais pour les Africains, on voit surtout un Américain très très riche et très puissant qui arrive. Et donc effectivement, bah, il y a la question de la classe sociale, etc. Et tout le monde qui se met un petit peu aux petits oignons pour avoir son moment médiatique dans la séquence de 4 heures où IsoSpeed est en train de diffuser à la planète entière. Quoi.
Ce qui était aussi étonnant et beaucoup relevé, c'est les commentaires des gens qui regardaient les vidéos pendant sa tournée en Afrique, et notamment des commentaires d'afro-descendants justement en diaspora. C'est ce que vous dites, qui disaient, mais en fait, on nous a menti, l'Afrique n'est pas telle qu'on l'avait imaginée et telle qu'on nous l'a racontée. Les gens avaient dans la tête des images d'Afrique, en effet, pauvres. Ils étaient par exemple très surpris qu'il y ait des 4 voies, qu'il y ait du Wi-Fi dans certains endroits. Enfin, des choses qui peuvent nous paraître complètement bizarres, en fait, à lire, un peu même, voire même un peu ridicule. Mais tous ces afro-descendants-là, il y en a beaucoup qui ont dit, mais en fait, ça nous donne envie de quitter l'Amérique et de retourner en Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez de ce mouvement ?
Et ben ça, c'est la question centrale qui anime toutes les diasporas. C'est est-ce que nous avons réussi à être à l'aise dans le pays où nous sommes en train de vivre, ou est-ce que nous voulons retourner dans le pays des ancêtres ? Et c'est pas que le cas des diasporas noires, bien sûr. Et en fait, ce que nous disent ces commentaires, c'est ça, c'est cet écart, cette méconnaissance de l'Afrique qui a été colportée par justement des siècles de publicité négative sur le continent. Mais je ne sais pas. En fait, il y a beaucoup d'exemples d'Africains qui ont tenté, notamment d'Afro-Américains qui ont tenté de rentrer en Afrique. Il y a l'exemple du Libéria, du Sierra Leone, qui ont été des exemples assez violents où, en fait, une fois installés en Afrique, les Afro-Américains ont reproduit des méthodes ou des manières d'être coloniales et qui ont déclenché ensuite énormément de violence entre les communautés afro-américaines qui étaient rentrées et les communautés africaines qui étaient sur place. Donc la question du retour, elle doit aller beaucoup plus loin et elle doit justement être vraiment pensée. Pour l'instant, j'ai l'impression que le passage d'IsoSpeed a allumé une étincelle et j'espère que les gens prendront le temps de regarder l'histoire des retours pour se demander comment est-ce qu'on peut renouer justement un lien vertueux entre les diasporas et le continent.
Peut-être une dernière question justement sur cette étincelle. Que reste-t-il finalement après le buzz ? Quels effets concrets ce type de tournée médiatique laisse-t-il sur les pays traversés selon vous ?
Ben, je pense que ça laisse surtout une transformation du champ de vision des diasporas, c'est surtout ça. Ça permet de transformer la manière dont les diasporas pensent l'Afrique, plutôt que, je pense pas que ça ait vraiment d'impact sur le pays en lui-même.
Sur le tourisme par exemple, vous pensez que des gens vont avoir envie d'aller visiter certains pays ?
Oui, je pense que ça va avoir un impact, parce que souvent, aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, les gens aiment retourner aux endroits où ils ont vu les influenceurs faire quelque chose. Et donc, les gens vont aller par mimétisme dans différents pays pour aller faire ce que IsoSpeed a fait ou se retrouver au même endroit. Et je voulais juste terminer sur le Botswana, parce que IsoSpeed est passé dans ce pays où il a voulu, par exemple, acheter du diamant. Botswana, qui est un des grands producteurs de diamants, et il s'est rendu compte sur place que finalement, le pays ne pouvait pas le vendre. En fait, le Botswana a des contrats avec des entreprises européennes depuis l'époque coloniale, notamment une entreprise qui s'appelle De Beers, et du coup, ils ne pouvaient pas vendre ce diamant à IsoSpeed directement. Et donc ça pose vraiment plein de questions sur quel est encore le lien colonial ou le lien de domination économique qui entrave les pays africains. Et je pense que ça va beaucoup transformer la vision des diasporiques sur le continent.
Bien, merci beaucoup, c'était très clair. Merci Sumboy Vrenon, et je renvoie nos auditeurs vers votre média en ligne Histoire Crépue. Merci beaucoup.
Merci.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, un film perdu du réalisateur Georges Méliès, enfin révélé.
Oui, un court-métrage égaré du cinéaste visionnaire vient d'être restauré et partagé par la Bibliothèque du Congrès américain. Gugus et l'automate, créé autour de 1897, offre 45 secondes féeriques dans la peau d'un Pierrot, le premier robot de l'histoire du cinéma qui s'anime. Les bobines reposées dans la collection du petit-fils de William Delisle Frisby, instituteur et forain qui sillonnait au 19e siècle les villes et les villages de la Pennsylvanie occidentale avec un projecteur.
Et pour finir, Marie, des nouvelles technologies de pointe ont permis d'attribuer le tableau Ecce Homo au peintre italien Le Titien.
Un nouvel Ecce Homo, issu d'une collection privée chypriote, a donc été authentifié et attribué au peintre italien dit Titien, et non plus à son atelier. Michel Menu, membre de l'Institut chypriote, a effectué une série d'examens, imagerie avec différentes longueurs d'onde, ultraviolet pour constater l'état de conservation, recours à un scanner permettant d'obtenir la répartition des différentes substances chimiques sur une toile et de cartographier la répartition des éléments comme le fer ou le calcium, et enfin l'infrarouge pour pénétrer dans la matière et voir les dessins sous-jacents. À partir du 7 mars, le musée Condé, situé dans le château de Chantilly, présentera au public ce chef-d'œuvre.
Merci Marie, on se retrouve demain.
À demain.
Pour de nouvelles actualités culturelles. En attendant, il est 13h et vous écoutez France Culture.